Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Ça y est, avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
Chômeur.
Auteur. Compositeur.
Yeah. Eh bien bonjour, bonjour. Aux joies, aux fiertés sans nom, nous voici de retour en studio pour la deuxième de CAC 34. Autour de la table, Bruno. Bonjour Bruno.
Salut.
Brigitte.
Bonjour.
Nicolas, un autre Nicolas.
Bonjour.
Et notre Nicolas de la première.
Bonjour, bonjour à tous.
Plus fort qu'au gouvernement, à CAC 34, on a deux Nicolas maintenant. Alors quand vous étiez petit et petite, j'en suis sûre, vous y avez tous joué à ça. On testait nos capacités psychomotrices. Souvenez-vous, une grosse boîte, un cube percé par des formes diverses. Des ronds, des triangles, des rectangles. On avait bien du mal à l'époque, tout bébé, on tirait la langue et on forçait pour que le rond rentre dans le triangle. Eh bien ça recommence. Imaginez que la grosse boîte s'appelle Pôle. Pôle emploi, un gros joujou créé par un gouvernement qui prend nos ronds et force nos âmes et nos vies à rentrer de force dans des cases. Un joujou qui fait crac, boum, hii, du bruit, de la casse, de nos ossements qui craquent et de nos êtres qui gémissent. Aujourd'hui, pour la deuxième de CAC 34, zoom sur Pôle emploi et ses dysfonctionnements. Effet, origine historique du gros joujou, cause, conséquences et débat révolutionnaire. C'est sur CAC 34, juste après ça.
J'étais si môme, j'ai pas fait gaffe à la connerie de tous ces grands. Maintenant que je le suis, je suis tellement con que je presse mon temps. Comme une orange, j'aurais voulu revoir grand-père pour qu'il me raconte une belle histoire. J'aurais voulu revoir grand-père, y'a plus de lumière et je suis dans le noir. D'un coup j'entends le brigadier qui m'interpelle comme un vieux sac. Dos au mur, j'étais bloqué, c'était le Corse. Patron du sac, il me dit passe tout, je lui dis passe quoi, il me dit le tout, je lui dis que j'ai rien, un petit bougnoule, je lui dis fombou, mais je lui dis que là, j'ai rien. Il me dit au poste, je lui dis pourquoi, elle m'a frappé comme un maquereau. J'ai fait des yeux de merlan frit et j'ai filé comme un harangue. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Maghrébin, quand t'as 20 ans, tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin. Quand t'as 20 ans, tu veux savoir le quotidien d'un maghrébin. Quand t'as 20 ans, la douce France m'adore tellement qu'elle m'interpelle à chaque tournant. J'ai pas le profil d'un président, pour eux je suis né pour être brigand. Demande à Jacques le fataliste si j'ai le cran d'être aussi grand. Ici le rêve s'est fait trahir par une monnaie qui est pas la mienne. Ici le rêve s'est fait bannir par des pensées industrielles. Que ça te plaise, en fait je m'en fous, on voudrait tant que je joue de la truelle. J'ai fait mon choix et c'est ainsi, je serai un deuxième.
Je serai un deuxième.
Un truc cruel.
Ouais.
Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Pourquoi les mômes restent tous en bas de cet immeuble? Je veux savoir pourquoi le voisin me regarde chelou à chaque matin. Tu veux savoir pourquoi l'école a fait de moi quelqu'un d'aigri? Je veux savoir pourquoi ici je manque de confiance, la justice. Tu
tu veux savoir
pourquoi au fond je m'en fous un peu de tout ce qu'ils me disent.
Le quotidien,
c'est moi qui le vis, le plus souvent c'est moi qui le vis.
Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux que je te dise, veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin, maghrébin quand t'as 20 ans, t'as 20 ans. Tu veux que je te dise, veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin, maghrébin quand t'as 20 ans.
Je vous le disais juste avant que Ridan ne m'interrompe avec son chant barbare. Aujourd'hui, CAC 34 décortique le gros joujou Pôle emploi, joujou un peu tordu et bancal, mais qui a bien une histoire, non? Et Nicolas Ier s'est penché là-dessus.
Alors, l'histoire de l'assurance chômage. Au départ, c'est une histoire qui commence plutôt bien. Plantons le décor. Dans les temps anciens, quand quelqu'un ne travaillait pas, c'était un feignant, un parasite, une sorte de gros morpion. Mais alors arrive la révolution industrielle. Et avec la mécanisation, les révolutions technologiques, de vastes groupes de travailleurs sont mis à la porte des usines sans pouvoir retrouver de travail, car il n'y en a plus. Alors les politiques de l'époque, au début du XXe siècle, ils sont bien embarrassés. On ne peut plus les appeler des fainéants. Pour bien les distinguer et montrer qu'ils sont privés de travail contre leur volonté, pour leur rendre leur dignité, on va les appeler chômeurs. Le chômeur était alors quelqu'un qui marchait la tête haute, mais avec les poches vides. Continuons l'histoire. Première date importante, 1945. Le Conseil de la Résistance, pour lutter contre les risques de la vie, crée des caisses. La caisse vieillesse, caisse maladie, caisse retraite. Il devait y avoir une caisse chômage, mais comme il n'y avait pas de chômage à cause de la reconstruction du pays, ça a été remis à plus tard. Et hop, nous voilà plus tard, 1958. De Gaulle voit arriver ce qu'on appellera l'informatique et, en plus, une entrée dans la CE. De nouveau, le chômage risque de repointer le bout de son nez. Il demande alors aux partenaires sociaux, syndicats, salariés et patronaux, d'anticiper ce risque. Et donc, on assiste à la création de l'UNEDIC, qui aura en charge la gestion de l'assurance chômage. L'UNEDIC regroupe donc ses syndicats et négociera tous les 3 ans les cotisations. Les ACEDIC, eux, seront en charge de la gestion de tout ça, quoi. 1967, création de la NPE, Service Public d'Accompagnement, rien de plus à dire. Dans les années 70 puis 80, on a une forte hausse du chômage. Arrive alors une date importante, 1982. Lors des négociations, le patronat refuse d'augmenter les cotisations chômage. Pour la première fois, il n'y a pas d'accord entre les partenaires. L'État est alors obligé de modifier par décret le montant des cotisations. En gros, les actionnaires font des bénéfices avec les progrès technologiques et en délocalisant, bref, en créant du chômage. Et ensuite, ils refusent de payer nos allocations. On appelle ça la crise et personne ne voit l'arnaque. 1984, la chute continue avec le cas des chômeurs de longue durée. L'État prend en charge maintenant l'ASS. L'UNEDIC, donc l'assurance chômage, ne s'occupe plus de ceux qui ont le plus besoin. Et donc, maintenant, c'est l'État qui va être en charge. Et l'État, c'est qui? C'est vous. Donc, c'est vous qui allez payer. Date suivante, 1992. Alors là, on assiste à une instauration de la dégressivité. En résumé, c'est facile. Plus de chômage, moins de fric. Et là, on arrive au gros morceau. 2002-2008. On décide la mise en place du service public de l'emploi. Ah là là, tant de choses à dire, alors je vais aller à l'essentiel. Directement, la loi du 13 février 2008 crée une nouvelle institution publique, Pôle emploi, fusion de l'ANPE et des ACEDIC. Premier point, problème avec cette fusion. Pôle emploi devient juge et partie. Avant, les ACEDIC payeurs pouvaient décider de sanctionner. L'ANPE ne s'occupait que de l'accompagnement, c'était séparé. Pour comprendre le problème, voici une petite métaphore. Vous êtes malade, par exemple. Donc là, le malade, ce sera le chômeur. Vous allez voir le médecin. Donc le chômeur, lui, va aller voir son ANPE. Puis vous vous faites rembourser par la Sécu, c'est-à-dire les ACEDIC. Normalement, s'il y a un soupçon d'abus du malade, la Sécu enquête et le malade peut se défendre, par exemple, avec l'aide de son médecin. Alors maintenant, faisons une petite expérience. Allez, on va fusionner le médecin avec la Sécu. Il va vous traiter et vous juger. Voilà ce que ça donne. J'arrive donc dans son cabinet et voilà ce que j'entends. Quoi, monsieur Rousseau? Toujours malade? Je pense que le problème vient de vous, pas de mon diagnostic ou de mon super traitement. En fait, vous le faites exprès d'être malade. Vous nous coûtez cher, alors débrouillez-vous tout seul. Et hop, je suis niqué, je peux pas me défendre, car c'est le médecin avec lequel je suis pas d'accord qui me juge. Et en fait, il a tout loisir de me remettre le problème sur le dos. Résultat, Voilà ce que ça donne. La fusion Pôle emploi, c'est désormais 500 000 radiations par an pour faire des économies. Pôle emploi a mis en place un système de radiation vicieux et très efficace, dont il faudra parler dans le reste de l'émission. Petite parenthèse, quand quelqu'un est radié, il perd quand même 2 mois de salaire, enfin 2 mois d'allocation, et se retrouve sans rien pour vivre pendant 2 mois. Deuxième point, là je vais aller très vite, soi-disant, la fusion devait rendre le dispositif plus efficace. Bon bah là, en 2010, en termes d'efficacité, aucune preuve. Vous l'avez compris, en fait, tout ça, c'est une façon très perverse et hypocrite de faire disparaître l'assurance chômage. Nous allons peut-être voir la fin des retraites qui nous obligera à cotiser pour défaut de pension qui crée le chômage, la fin de la sécu et la montée en puissance des mutuelles. Et donc ça pourrait être la fin de l'histoire. Plus d'assurance, chacun se débrouille, on disparaît en silence. Mais sinon, on peut peut-être changer la fin par une histoire de reconquête, la reconquête de nos droits, pour que ce projet de société solidaire inventé par le Conseil de la Résistance ne soit pas détruit par une mafia financière. Allez, dans la lutte, on ne lâche rien!
CAC 34, c'est une émission avec des vrais morceaux de chômeurs.
Et voilà, nous revoilà. Donc cette semaine, Pôle emploi va mal, très mal. Merci hein, Nicolas pour ce petit historique. Et c'est l'objet du billet de Bruno qui s'est lancé dans le décryptage de la langue de bois et ça s'appelle Pôle emploi et les employeurs, Pôle emploi et ses employeurs, où la vérité s'il mente.
Tout à fait. Je dirais qu'il n'y a pas que cette semaine que Pôle emploi va mal. Enfin bref. La France métropolitaine compte 2 687 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi. Et le nombre des inscrits continue de croître. Revenons aux chiffres, les vrais. En catégorie A, chômeurs sans activité, ils sont 2 697 000. En catégorie B et C, chômeurs en activité réduite, ils sont 1 302 000. Et si on rajoute les DOM qui sont volontairement occultés, ne sont-ils pas des Français à part entière, hein, Pôle emploi ? On arrive à 4 249 000. En catégorie D, les maladies, les formations, ils sont 254 200. Catégorie E, les contrats aidés, ils sont 369 400. Et si on parlait des chômeurs âgés en dispense de recherche d'emploi, dont on repousse au départ à la retraite, ils sont 286 700. Et dans aucune catégorie. Au total général, avec les DOM, on arrive à 4,9 millions d'inscrits. Précarité, quand tu nous tiens. Selon une enquête qui vient de paraître commandée par Pôle emploi, tiens, Pôle emploi fait ses enquêtes lui-même pour que ça bénéficie à sa communication, je crois. Un chômeur sur deux se déclare satisfait de l'accompagnement vers le marché du travail. Quel travail ? Quel accompagnement ? En plus, Pôle emploi ne remplit qu'à moitié sa mission. Dans le Languedoc-Roussillon, les contrats aidés sont brusquement stoppés jusqu'à la fin de l'année. Aucune communication officielle n'a pour l'instant été faite par les services de l'État. Vous pensez que ça les arrange ? Conséquence, les chômeurs et les associations sont dans l'incertitude. Par contre, pour les banques, on a trouvé de l'argent. Cherchez l'erreur. Ne parlons pas des offres d'emploi. En août, en France, Pôle emploi n'avait recueilli que 264 000 offres d'emploi, dont 154 000 étiquetées temporaires. Emploi de moins de 6 mois, ou occasionnel, moins d'un mois, et même d'une heure. Est-ce qu'on peut appeler ça des emplois ? Par exemple, un emploi bidon, cherche bûcheron, pour un emploi d'une heure, vous êtes prié de ramener votre scie. Voilà le genre d'offre qu'on peut voir pour l'emploi. Bonjour la précarité. Et n'oublions pas les annonces bidons. Donc celle que je viens de vous dire, il y a plein d'annonces bidons à Pôle emploi, il suffit de regarder, il y a beaucoup d'offres, mais des vraies offres, il n'y a pas grand-chose. Quoi. Et le nombre de radiés, si on en parlait, et des conséquences, ne pourrait-on pas laisser leurs allocations aux chômeurs tant que leur culpabilité n'est pas prouvée ? C'est-à-dire qu'on coupe, quand un chômeur manque un rendez-vous, par exemple, on lui coupe ses allocations, c'est-à-dire que pendant 2 mois, il n'a pas un centime, alors que dans le fond, ça se trouve, il a raison. Eh oui, on est coupable d'office, il faut que ça change. Ne pourrait-il pas y avoir un conseiller indemnisation par Pôle emploi, visible et organisé ? Pourrait-on savoir ce que deviennent nos candidatures envoyées à Pôle emploi ? À quand la suppression du 3949 et une ligne téléphonique complètement gratuite ? À quand la possibilité de communiquer de manière fiable et simple avec son référent, par téléphone ou par mail, pour être sûr que le message soit bien entendu ? Et avec des traces pour prouver notre bonne foi. À quand un vrai contrôle des prestataires? Parce que certains prestataires servent à rien. Ils touchent de l'argent et ils vous trouvent pas de boulot et ils vivent sur votre précarité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'occupent des chômeurs, presque de chômeurs, pratiquement. Je rigole, mais c'est presque ça, des fois. Et à quand une prise de conscience de Pôle emploi, de ses conseillers, du gouvernement, de sa direction? Et à quand pour les chômeurs la possibilité d'évaluer leurs évaluateurs?
Eh bien voilà, c'était le... Hier. L'humeur de Bruno, hein, un peu, et donc évaluer les évaluateurs, justement, Nicolas Roultabi.
Oui, donc je me suis lancé dans une enquête, tout simplement, en faisant le 39-49, parce que de toute façon, Pôle emploi axe énormément sa communication sur ce numéro de téléphone qui serait censé être simple, rapide. Et on va vous montrer ce que ça donne. Donc ne quittez pas, c'est un monde assez étrange. Voilà.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Cet appel passé d'une ligne fixe ou d'une box vous sera facturé 11 centimes d'euros maximum. Si vous appelez depuis un mobile, cet appel sera décompté de votre forfait ou facturé au prix d'une communication normale. Pour plus d'informations, choisissez « Tarifs » dans le sommaire. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Merci. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention, pour les DOM, composez le 97. Vous avez choisi le département Hérault. Tapez 1 pour confirmer. Tapez 2 pour modifier. Si vous connaissez déjà le mot-clé du service souhaité, vous pouvez le prononcer dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « Actualiser ». Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire, dites « Inscription ». Pour les offres d'emploi, les formations, votre recherche d'emploi ou vos rendez-vous, dites « Emploi ». Vous souhaitez accéder à votre dossier pour connaître vos paiements, signaler un changement de situation, obtenir une attestation ou exprimer un recours sur une radiation, dites « dossier ». Pour obtenir des informations générales sur les droits, les aides et l'indemnisation, dites « info ».
Info.
Pour toute information. Ce service vous permet d'obtenir des informations générales sur les droits et les aides. Vous pouvez aussi retrouver ces services 24 heures sur 24 sur le site internet www.pole-emploi.fr. Le saviez-vous? Dans la rubrique « Dossier », vous pouvez obtenir ou modifier des informations personnelles sur vos paiements et votre dossier. Pour accéder à ce service, tapez « étoile » pour retourner au sommaire, puis dites « Dossier ». Sinon, patientez. Dans le cadre d'une enquête de satisfaction visant à recueillir votre avis sur les services du 3949, vous êtes susceptible d'être rappelé au terme de cette communication. Vous êtes demandeur d'emploi. Composez les 7 chiffres de votre identifiant. Sinon, appuyez sur la touche étoile. Veuillez patienter. Pôle emploi, bonjour.
Allô, oui, bonjour madame. J'ai une question à vous poser. En fait, je voulais savoir... Je suis en fin de droit, en fait, fin de droit ARE, et je voulais savoir si je devais déposer un dossier RSA en même temps que le dossier ASS.
Alors, vous l'avez déjà déposé? Vous l'avez reçu, votre dossier ASS?
Oui.
D'accord. Vous l'avez déposé, nos services, ou non?
Je viens de l'envoyer aujourd'hui, en fait.
Vous venez de l'envoyer. Donc, de toute façon, les services du RSA vous demanderont la notification de décision par rapport à l'ASS, hein?
D'accord.
Vous devez d'abord avoir le résultat de l'ASS, et si l'ASS est refusée, dans ce cas-là, il peut y avoir une prise en charge au titre du RSA.
D'accord. Bon, mais je vous remercie, madame.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir.
Eh bien, c'est de la radio-réalité, hein. Ça prouve quoi, cet appel, Nicolas, en fait?
Bon, alors, d'abord, une petite traduction. ARE, c'est le chômage normal, pour ceux qui ne connaissent pas. RSA, c'est ce qui remplace le RMI. Et l'ASS, c'est un régime de solidarité qui est équivalent au RSA, mais pour les personnes qui ont travaillé plus de 5 ans dans les 10 dernières années, en fait. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça prouve? Je crois que la dame est très gentille, elle a un aplomb fou. mais elle me donne un mauvais renseignement. C'est-à-dire que quand elle me dit qu'il faut que je dépose mon dossier de RSA seulement une fois que j'ai la réponse de l'ASS, elle fait une erreur qui peut être très lourde de conséquences, parce que s'il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre le temps où je pose mon dossier d'ASS et où j'ai la réponse, pour ensuite poser le dossier de RSA, eh ben, j'aurai un différentiel. C'est-à-dire que pendant toute cette période, entre les deux, le département refuse de payer, et en arguant du fait que le RSA n'est pas rétroactif. Donc surtout, si vous avez... si vous devez poser un dossier d'ASS, posez le dossier de RSA en même temps, y compris s'il n'est pas complet. Parce que comme ça, vous êtes maintenu dans vos droits, vous prenez date, en fait.
Ouais. C'est la date de dépôt qui compte.
Ouais, donc c'est fou, en fait. Non seulement c'est long, non ? C'est long. Enfin, je pense que les auditeurs ont dû sentir le temps.
Plus c'est long, moins c'est bon, là.
Là, c'était quoi ? Combien de temps avant d'avoir une conseillère ?
Ah, 2 minutes et demie.
Donc c'est long et c'est faux.
Voilà. Et encore, hein, on verra plus tard, mais là, on a eu de la chance d'avoir quelqu'un.
Et puis, juste pour revenir sur cette histoire-là, on a eu un cas à la maison des chômeurs où, avant d'avoir sa notification, elle a été obligée d'attendre 3 mois. Donc le différentiel peut être très long.
Ouais, ouais. Bah, tu manges des cacahuètes, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, il se passe que c'est un peu le bordel à Pôle emploi, puis qu'il faudrait que les gens ne s'imaginent pas le bordel que c'est à Pôle emploi.
Ben en fait, moi, je pense qu'on s'est posé la question de savoir si ce qu'on pouvait se passer de Pôle emploi, finalement. Parce que si c'est pour qu'ils nous donnent ce genre de renseignements. Et donc, on a interviewé Séverine.
Alors, bonjour, moi, je m'appelle Séverine Lucas. J'ai donc été au chômage suite à un licenciement avec rupture conventionnelle dès que c'est sorti en mai 2009. Et je n'ai plus eu confiance dans les employeurs. Donc, j'ai bénéficié de mon chômage tout de suite en montant une petite entreprise. Voilà. Donc j'ai pris le capital de Pôle emploi. Je n'ai jamais rien eu d'eux hormis ça, puisque les recherches je les ai fait seules. La société je l'ai montée seule. Et je n'ai jamais rencontré ma conseillère Pôle emploi depuis 2009. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Ensuite, ma petite entreprise s'est cassée la gueule. Donc j'ai perdu un peu de sous et j'ai dû arrêter là les frais. Et j'ai trouvé une formation par moi-même également, que je l'ai amenée au Pôle emploi en disant voilà, je veux faire ça. Et je n'ai encore jamais rencontré ma conseillère à ce moment-là non plus. Et j'ai attaqué tout de suite une formation derrière depuis le mois de juin 2010. Et j'ai un diplôme à passer au mois de décembre. J'ai du chômage jusqu'au 11 janvier 2011. Et je compte bien travailler et ne plus jamais avoir affaire à Pôle emploi.
Voilà une réponse en fait. Qui était, la question c'était... oui.
Je sais comment s'appelle sa conseillère. Son prénom, il n'y en a pas, et son nom de famille, c'est du boulot.
Ouais, c'est les blagues de Bruno, donc merci. Du coup, la question qu'on se posait, c'est peut-on se passer de Pôle emploi, Séverine ?
Ben, pour le moment, oui. Après, j'ai continué ma brillante enquête. Donc, on a essayé, parce que Pôle emploi a un rôle qu'on ne connaît pas forcément quand on est chômeur, c'est le rôle de placement, en fait. C'est-à-dire auprès des entreprises. Et d'ailleurs, ils ont mis un numéro unique à disposition des entreprises, donc c'est le 3995. Et donc, nous, on a toujours dans cette même optique, on a décidé de le faire pour tester et voir ce qu'il en était.
Oui. Vous avez appelé le 3995.
Voilà, et on l'a aussi fait par dépit, parce que on a passé toute une matinée à appeler le 3949, et n'est-ce pas, Gabriel? Et donc
oui, tout à fait, je confirme qu'on a passé toute une matinée à appeler divers départements, et que après avoir attendu 2 minutes 33 minutes, eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas de conseiller, donc qu'il faut rappeler. Et donc on a rappelé et ça n'a pas marché, on a abandonné. Voilà. C'était une sorte de victoire quand même dans le propos.
Voilà, donc ça, c'est très représentant. Effectivement, ça montre que ben, 39-49, il ne marche pas si bien que ça. Donc on a décidé de faire la comparaison avec le 39-95. Et, voilà.
39-95, on le rappelle, c'est côté patronal alors. Hein,
Pôle emploi, service entreprise, bonjour.
Allô, oui, bonjour madame, je vous appelle, je voudrais avoir des renseignements sur les CUI CAE en fait. Je suis président d'une association et on envisage de recruter par ce biais.
Alors par ce biais-là ne sont plus disponibles au niveau de l'éligibilité hein, des contrats uniques d'insertion CAE. Ce sont uniquement les personnes qui sont au RSA Socle. Donc les personnes qui touchent uniquement le RSA, l'ancien RMI, qui est versé par le Conseil Général, et c'est le Conseil Général qui monte la mesure. Ce n'est plus le Pôle emploi, enfin dans certains cas, hein, ça va dépendre du département dans lequel vous êtes.
D'accord, moi je suis dans l'Hérault en fait.
Dans l'Hérault, donc j'aurai un numéro à vous donner, hein, pour le montage du dossier. Alors au niveau je vais vous donner pour le RSA, donc les personnes donc se sont décédées de 6 mois. L'aide, hein, qui est accordée donc se fait sur 65% sur le SMIC brut. Et c'est un minimum de 20 heures semaine. Donc 65% sur les 20 heures semaine.
D'accord. Et les allocataires de l'ASS sont plus concernés?
Ne sont plus concernés. Donc en fait, tous les contrats uniques d'insertion sont gelés depuis la semaine dernière, puisque le quota a été atteint. Donc il ne reste plus que les personnes éligibles au RSA socle.
D'accord, c'est-à-dire voilà. Qu'ils ne travaillent pas du tout en fait.
Voilà, tout à fait. Pour le RSA, les personnes qui perçoivent le RSA uniquement, et pas le RSA qui vient en complément d'un salaire, hein, d'un revenu.
Et est-ce que vous pouvez me dire, parce que moi, si je prends quelqu'un 20 heures par semaine sur un mois avec les 65% de subvention, ça me revient à combien en coût d'employeur, vous savez?
À 65% sur 20 heures, alors coût salarial maximum, ça vous donne une idée, hein, coût salarial mensuel approximatif pour l'employeur, 20 heures à 65%, ça vous fait 366 € à peu près.
D'accord, donc ça c'est tout ce que je devrais payer, ouais, avec l'écharpe. Bon, mais je vous remercie madame.
Je vous en prie, avec plaisir monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc c'était... Tu t'es fait passer pour un patron ou un président d'association. T'as des commentaires?
Oui, ça fait du bien d'être un patron pour une fois. Non, mais tout ça pour dire que, alors qu'on a galéré pour obtenir le 39-49, le 39-95, on l'a eu tout de suite. On a des réponses rapides qui sont fiables. Et donc, on a... Enfin, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait un véritable déséquilibre entre la manière dont Pôle emploi traite les chômeurs et la manière dont elle traite les patrons.
Bruno, je te vois réagir.
J'ai une petite parenthèse. Ça prouve que quand il y a des aides intéressantes pour les patrons, ils se jettent dessus. La preuve, c'est qu'il y en a plus qu'à la fin de l'année et qu'en plus, qu'on rentre dans la précarité à fond.
Mais c'est vraiment représentatif. Vous ne nous avez pas un petit peu... manipulé avec Gabriel au doigt d'argent à la technique, c'est-à-dire que vous avez eu rapidement le côté patronal.
Ah mais la première fois, on l'a fait qu'une fois donc.
D'accord.
Ah oui, je confirme. Et même en tant que technicien son, je rajoute que la qualité sonore d'enregistrement côté patronal est bien meilleure, le niveau est bien meilleur, la musique est mieux arrangée.
Sérieux ?
Non, le confort est mieux, oui. Ah. Non, mais c'est évident. Ah non, mais c'était flagrant. Ah.
Et puis j'ajoute que Nicolas pouvait pas se prendre pour un patron plus d'une fois quoi.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme patron, déjà ça l'embêtait, et donc recommencer, dire je suis encore patron, tu vois le stress,
bon,
toi.
Il aurait pu délocaliser, hein, ça se fait un peu en ce moment. Bon, eh ben, on va se faire une petite pause musicale, on l'a mérité après tout ça. Allez.
Diana,
Voilà, nous revoilà pour aborder les. On va aborder les effets pervers hein, de ces dysfonctionnements sur nos vies, les effets pervers de Pôle emploi. Vous êtes bien sur CAC 34, chômeur auteur compositeur. Et aujourd'hui, donc Brigitte, qui est à mes côtés, et Nicolas Rouletabille sont allés recueillir le témoignage d'une autre Brigitte. Qu'on va donc écouter, une autre Brigitte qui témoigne.
Bonjour, je m'appelle Brigitte, je suis à Montpellier depuis 7 ans en tant que demandeur d'emploi. Avec l'allocation spécifique de solidarité, je gagne 456 euros par mois. J'ai pas trouvé de travail parce que je commence à prendre de l'âge, c'est-à-dire 50 plus. Et donc, c'est vrai, ça me fait très peur. J'ai peur de l'avenir. Je pétoche. Ben, jusqu'à maintenant, je n'ai plus de contact avec Pôle emploi, mais bon... depuis un an. Je suis plus reçue depuis un an. Parfois, je suis contente parce que ça me libère, mais parfois, parce que j'ai quand même des doutes avec un D majuscule sur l'opportunité des emplois pour des seniors. Hein. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais vaguement dans la rue à Montpellier qui travaillait à la mairie. Cette personne m'a dit, vu ton âge, même la mairie ne te donnera pas un emploi. Donc c'est vrai que dans un sens, le Pôle emploi m'embête pas, puisqu'il me convoque pas. Donc d'un côté, je suis contente, mais d'un autre côté, je me dis quand même, j'aimerais bien qu'il me convoque parce que pour me booster un peu, parce que parfois, il y a des annonces qui m'intéressent et auxquelles je réponds ou je ne réponds pas, parce que j'ai une crainte de l'avenir et les employeurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, n'embauchent pas les seniors. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? J'ai pas du tout mes trimestres, il m'en manque. J'ai 56 ans. Encore, j'ai vu avec la nouvelle réforme, il faut que je travaille jusqu'à 61 ans plus 8 mois. J'ai vu ça et donc j'ai pas mes trimestres non.
Bonjour, Pôle emploi à votre service.
Par rapport au dysfonctionnement du Pôle emploi, j'ai fait des stages de formation, ordinateur, etc. Et en fait, proposés par des prestataires de services. Et en fait, c'est moi-même qui forme plus les gens qui étaient là que la responsable qui était chargée de cette formation. Deuxième point, un autre dysfonctionnement, c'est que l'autre fois, je me suis retrouvée aller à Pôle emploi dont je dépends, Euromédecine. Et puis, il s'est avéré que c'était un problème d'indemnisation, de problème de tarification par rapport à l'EDF. Je dis, je voudrais rencontrer quelqu'un qui puisse me renseigner à ce sujet. Et il s'avère que la personne avait trop de travail, parce qu'elle dépendait avant des ACEDIC, et donc elle pouvait pas me recevoir. Donc j'y suis retournée une deuxième fois pour l'emploi Euromédecine, et la personne m'a dit « Ah mais non, il faut aller à Pôle emploi Malbosque. » Parce qu'à Pôle emploi Malbosque, ce sont des prestations uniquement pour des gens qui ont des problèmes d'indemnisation, etc. Donc j'ai fait trois fois l'aller-retour, je n'ai plus de voiture, baladé à droite et à gauche, concernant des demandes qui sont pas du tout clarifiées par rapport au Pôle emploi. Et une fois, j'y suis allée aussi, et en fait, c'était pour la formation, pour savoir si je peux être indemnisée pour une formation. Donc je suis allée à Malbosque, pensant que c'est eux qui allaient me répondre, et heureusement, j'ai attendu, mais heureusement qu'il y avait quelqu'un de Pôle emploi Euromédecine qui était présente, et qui a pu me répondre, parce qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait répondre, puisqu'elle fait partie du placement. Donc il y a vraiment un dysfonctionnement total et la fusion ANPE-ACEDIC ne s'est pas faite. du tout. Et troisième ou quatrième fois, j'y suis allée parce que je me suis dit, tiens, ben, je vais profiter, j'ai plus d'ordinateur chez moi. Donc je vais consulter les annonces. Donc je vais aller à Pôle emploi Balbosque, pour la bonne raison que y a le tram, c'est plus pratique. Et j'y suis arrivée à 10h, et puis on me dit à 12h30, ah, c'est fermé. Je dis, c'est pas possible, puisque Euromédecine est ouvert toute la journée. Donc je me suis fait remballer à 12h30, puisqu'il ferme à 12h30. Et parce que c'est les horaires des acédiques. Voilà. Donc c'est très sympa pour les demandeurs d'emploi qui sont fatigués, psychiquement, moralement. Et on nous envoie balader à droite et à gauche.
Bonjour, Pôle emploi à votre service.
Alors, l'autre point qui est quand même grave, quand même très très grave, c'est l'informatisation totale, avec un T majuscule, style Brésil, c'est que maintenant tout est géré par l'informatique. C'est assez gravissime, c'est-à-dire le conseiller qui vous suit d'habitude, hein, vous pouvez jamais le joindre. Une fois, j'avais essayé, il m'a dit, mais j'ai 150 mails, donc je peux pas vous répondre. Donc c'est complètement informatisé, vous êtes un numéro, point à la ligne, et donc si vous êtes en retard, eh bien vous êtes résilié. Une fois j'y suis allée, c'est une femme, à chaque fois elle était conviée le mercredi alors que c'est le jour où elle gardait son enfant, donc elle n'avait pas de garde à payer, et à chaque fois on la convoquait le mercredi, et à chaque fois elle reposait le problème et ça n'était jamais pris en compte. Et donc l'informatisation, c'est vraiment aussi vraiment vraiment scandaleux, quoi. Tout comme pour tous les autres services, services publics, hein, où tout est informatisé et vous êtes un numéro. Pôle emploi et le personnel n'est pas complètement responsable de ce qui se passe. Ils souffrent eux, hein, il faut pas non plus. C'est des êtres humains, ils sont pressés par un système, tout comme la France Télécom. C'est plus une politique gouvernementale et un problème sociétal qui existe. Hein, on est plus de 4 millions. Hein. 4 millions de chômeurs, ça veut dire combien, avec le nombre de personnes qui dépendent du foyer familial, etc., ça fait 10 millions de personnes, alors qu'on est 20 millions d'actifs. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je pense qu'il faut, se réunir et être solidaire. Les gens qui travaillent ne se rendent pas compte de la situation des demandeurs d'emploi. Le stress, le problème de savoir est-ce qu'ils vont manger, le problème du transport. On est et puis rien de savoir qu'est-ce qu'elle va nous réserver l'avenir, hein, parce que bientôt, peut-être qu'on aura moins de droits et de soutien au point de vue des allocations. Mais c'est quand même gravissime actuellement, parce que quand même ça représente un nombre de chômeurs, sans compter les jeunes, etc. Donc il y a vraiment un problème de société. Et beaucoup d'intellectuels, économistes, etc. le disent. Hein, mais encore faut-il l'entendre, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils pétochent un peu, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas passés de l'autre côté. Parce qu'on est passé de l'autre côté. Hein. C'est pas le côté du cimetière, mais presque.
Eh bien voilà, on a écouté le témoignage saturé, long, c'est le témoignage de Brigitte sur ce qu'elle traverse à Pôle emploi. Ça nous laisse un peu songeurs.
Moi j'ai envie de prendre la parole là, parce que après les interviews de la, enfin tout ce qu'on a récupéré, tous les documents sonores qu'on a entendus dans la première partie plus l'interview de Brigitte, moi comme ça ma première réaction, j'ai l'impression qu'en fait Pôle emploi est pas en capacité de trouver des emplois, parce que tout simplement faut le dire, il y en a pas. Donc en fait ils se sont un petit peu reconvertis dans un autre type de boulot. Première partie, Bruno en avait un peu parlé, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie où on essaye de masquer le chômage en bidouillant les chiffres, avec les histoires de catégories, tout ça. Et puis deuxième partie, une autre façon de faire disparaître les chômeurs, si on n'arrive pas à les faire disparaître dans les chiffres, et ben c'est de faire une espèce de machine à radier qui fonctionne très bien. Hein, puisque ben, on voit que le rapport est très très difficile. Et puis si par exemple vous avez un recours à faire en cas de radiation, ben, je vous souhaite bon courage. Hein. Moi j'ai eu l'exemple de personnes qui l'ont fait tout seul sans l'aide de l'association. Elles ont réussi à obtenir quelques petits trucs, mais elles n'ont jamais pu récupérer leurs 2 mois de location. Quoi. Donc ben, voilà, hein, moi, ma conclusion c'est Pôle emploi, machine à faire disparaître le chômage, mais pas dans le bon sens.
30% des offres, 100% d'emmerde.
Ouais, je veux juste rajouter, l'association, c'est pas une association de malfaiteurs. On a l'impression qu'on est en train de parler d'un truc mafieux. Je crois que tu faisais allusion à CRÉ, donc l'association des chômeurs et citoyens solidaires, donc près de la gare dont on parlait dans la première émission déjà. Oui, donc voilà, enfin, moi ce qui me touche quand même dans ce témoignage, c'est aussi la question de... existentielle aussi, hein. La grande solitude face à une machine un peu détraquée, quoi.
Il y a la machine et puis au bout de la machine, il y a un mur surtout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un peu plus de 50 ans comme Brigitte, elle se dit, je vais à Pôle emploi, déjà, j'ai l'impression de dévaloriser, infantiliser. Elle sait que dans les offres d'emploi qu'elle aura, c'est que des contrats précaires. Elle se dit qu'elle n'aura pas les trimestres pour aller jusqu'à la fin de sa vie pour avoir une retraite convenable. Déjà, quand on rentre, et si on n'a pas un soutien, quelque part, une certaine convivialité, déjà qu'on est dans un espace où on se sent pas bien, c'est vrai qu'on va contre un mur. La seule solution, à mon avis, c'est de se réunir en collectif et c'est d'avoir des activités pour que ça change ou d'être un peu militant.
Mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais est-ce qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on avait envie de dire sur Pôle emploi ? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de casser le joujou ou de qu'est-ce que vous avez envie de rajouter des choses, je te vois, Nico.
Moi je voulais dire que en fait il y a deux niveaux. Il y a Pôle emploi, il y a la machine qui broie avec des directives, avec des politiques qui dirigent tout ça, donc effectivement. Et puis il y a en bas, il y a des agents qui appliquent plus ou moins ces consignes, en fait. Donc ils ont une petite marge de manœuvre, mais ils ont une marge de manœuvre. C'est-à-dire que... Et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui sont plus vaches que d'autres. On le voit dans les recours. On voit des directeurs d'agence qui radient beaucoup plus que d'autres.
Croix d'argent.
Voilà. Il faut, notamment, oui. Et donc, il ne faut pas les oublier, mais il y a des choses qui sont faites et... Ça passe pas comme ça dans le vent. On l'oublie pas. On sait aussi qui fait quoi. Et je pense que c'est important que quand on a un problème, on le dise et on dise vraiment que qui fait quoi justement, et que à la Croix d'Argent par exemple, il y a un vrai problème de radiation. Elle doit sûrement toucher beaucoup de primes. Et donc il y a ce deux. Enfin moi je voulais juste insister sur ces deux niveaux. Il y a le niveau des directives, et puis il y a le niveau humain où il y a des gens qui refusent de faire quelque chose. Mmh. Moi, alors qu'il y en a qui font des choses et qui peuvent nous aider aussi et qui nous aident.
Ouais, ouais.
Moi, je veux revenir sur deux composantes qui sont vachement importantes. C'est-à-dire que dans les pôles emploi, on a la possibilité, nous les chômeurs, de rentrer dans les comités de liaison. C'est-à-dire qu'on va voir les patrons de Pôle emploi tous les 3 mois pour leur remonter les doléances qu'on a sur le terrain. Et croyez-moi, on sait de quoi on parle, hein, en niveau de doléances quand on est chômeur. Par contre, eux, ils nous répondent qu'ils appliquent les lois et qu'ils sont, voilà, ils sont fonctionnaires, et donc eux, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais comme disait tout de suite Nicolas, on peut prendre conscience qu'on peut faire quelque chose. Alors la deuxième partie de mon intervention, c'est qu'on fait partie du mouvement national des chômeurs et précaires. C'est des associations d'associations, il y a une quarantaine d'associations en France, où il y a des gens qui militent pour changer le chômage pour les gens qui sont en plein dedans. C'est-à-dire qu'on remonte les revendications à Paris et qu'on rencontre le directeur général de Pôle emploi qui s'appelle M. Charpie. Et donc là, on pose nos doléances et à la force, on arrive quand même à obtenir par petites bribes des avantages. Quand je dis des avantages, ce n'est pas des avantages, c'est des avancées plutôt. Donc ça, c'est important. Donc il faut que les chômeurs le sachent et qu'ils se réunissent et qu'ils qui viennent parler, qui se groupent et qui viennent à la maison du chômeur et ensemble on en avance. Parce que si chacun dans son coin on dit ouais je peux pas, je suis désespéré, je peux rien faire, non on peut, nous on obtient les choses avec l'association, on fait réintégrer dans leurs droits des gens qui sont radiés, vous rendez compte, 2 mois de salaire perdu, donc on agit, donc voilà.
Bon, c'est important de rappeler ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre, et aujourd'hui en plus il y a une amnésie sur ces questions-là, que de toute façon on obtient des choses que dans des rapports de force, et comme nous sommes fragilisés en tant que chômeurs sur ces questions-là, c'est difficile d'entrer dans des rapports de force, que ce soit avec son conseiller professionnel ou avec je te vois frétiller Brigitte, mais c'est vrai, regarde, pourquoi on parle de ça, c'est parce qu'on se retrouve aussi souvent acculé à des tas de problèmes, je veux dire on peut rentrer dans les détails des dysfonctionnements, comment se fait-il qu'on ait qu'une enveloppe de 200 euros pour l'aide à la mobilité, pour trouver, c'est pas le terme exact, pour trouver de l'emploi en fait, quand tu fais 45 candidatures, que tu dois aller à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. On peut se poser des questions aussi, on peut avoir des revendications, puisque nous sommes aussi experts de ce temps du chômage, et de savoir aussi qu'est-ce qui se passe en studio, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut renvoyer aux conseillers professionnels, et éventuellement, mais moi j'ai eu un petit conflit avec ma conseillère, et voilà, ça se passe autrement maintenant aussi, bon, c'est pas la panacée, parce qu'elle est dans un système, et donc c'est un système qu'on dénonce, mais on se rend compte aussi que dans son système qu'on dénonce, il y a des individus qui font du zèle. On a vu ça dans toutes les périodes, enfin du zèle un peu fâcheux et désastreux. Voilà, c'est...
De toute façon, on peut s'en sortir que par le collectif dans le rapport de force. Il n'est pas question qu'une personne toute seule, un chômeur tout seul, se pointe devant le conseiller et lui dise « Ouais, le boulot que tu me proposes, il ne me convient pas. » Non, le collectif, il existe pour ça. Donc, avec le collectif, on a un bon rapport de force et on s'en utilise.
Voilà, je ne sais pas, on va peut-être réfléchir à tout ça le temps d'un petit « Sorry Love ».
After anywhere we've ever been, left with nothing left to play, saying we'll never do that again, another thing we have to say. From our bouquet of hearts into dead and dying flowers, love and sorry are words we use in this sorry love of ours. In the chaos of our emotions, we've done all we can do. This way we keep dealing how we feel, what we're feeling.
Sorry love.
You keep saying I'm sorry, and I keep saying it too. Well, if this is love, then maybe it's love that's through. The sound of fear and blame, crying out a calling name, while this anger keeps giving birth, all those sorries lose their worth. The storm in our calm, in a planting of seeds, the quantity of our wants affects the quality of our needs. Love clashing over love, playing strength as weakness, turning pleasuring into pain, in a circling incompleteness. From our bouquet of hearts into dead and dying flowers, love and sorry are words we use in this sorry love of ours. We've already gone everywhere we can go. All we need now, some nice days in a row.
Notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui,
nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Initiative.
Nous serons patron. À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Initiative.
Alors, la semaine dernière, Bruno nous avait parlé brillamment d'escarcelles. Cette semaine, on va parler un petit peu de... On va profiter de l'occasion pour parler un peu de tous les ateliers qu'il y a à la Maison des Chômeurs. Donc déjà, les ateliers existants. On a l'atelier informatique avec Jean-Louis et Jean-Claude, des retraités charmants qui vous accueillent le lundi et le mercredi pour vous aider à apprendre, à vous perfectionner. L'autre atelier qui tourne bien, c'est l'atelier peinture. Bruno y participe d'ailleurs, et donc celle qui est en charge à la Maison des Chômeurs, c'est Isabelle. Il y a également
L'atelier peinture, c'est le lundi, et c'est les citoyens solidaires, la Maison des Chômeurs citoyens solidaires, parce que les solidaires, c'est les gens qui viennent bénévoles animer ces ateliers aussi.
Il y a un autre atelier qu'il faudrait pas oublier, c'est l'atelier radio. Ben voilà, vous y êtes. Sinon, alors, je voulais parler des deux ateliers là qui vont se développer un petit peu dans les semaines à venir. Alors, il y avait l'atelier existant, l'atelier jardin, mais là, on vient de recevoir le soutien de deux étudiantes de Supagro, Emmanuel et Claudine. Alors, il faut souligner quand même que c'est une démarche spontanée. C'est-à-dire qu'elles sont venues d'elles-mêmes proposer leur aide. Et donc, leur objectif, c'est à travers ce jardin solidaire d'essayer de passer de bons moments ensemble, d'essayer d'avoir des produits, notamment pour le repas du vendredi, de créer des liens, enfin d'avoir un petit espace sympathique autour de ce jardin.
Ce qu'il faut dire, c'est que ça sera un jardin bio. Donc, on va faire un petit jardin bio, on va essayer de faire des bons trucs pour l'association, pour prouver que les gens au chômage ou précaire peuvent manger des trucs bons quand même, parce que pour qu'on soit permanent dans la recherche du travail, il faut qu'on soit en bonne santé.
Et le dernier atelier qui va se créer, c'est l'atelier d'écriture avec Marion. Il est encore... il vient juste de débuter, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire.
Chômactu. Les chômeurs et précaires parlent à la population. Je répète, les chômeurs et précaires parlent à la population.
Allez, c'est le moment fourre-tout, là. Les dernières actus que vous avez, mettez-les vite, c'est la fin de l'émission.
L'actualité importante, c'est que Pôle emploi est en grève le 9 novembre. Alors, je ne sais pas quand est-ce que va diffuser l'émission, mais c'est le 9 novembre. Et la plus grande actu, c'est quand même le truc vachement important, c'est que... Et oui, le truc le plus important, c'est que le 4 décembre, toutes les associations de chômeurs défilent à Paris contre la précarité et puis contre le chômage. Donc c'est le 4 décembre à Paris. Vous pouvez vous inscrire à l'association de créer Maison des Chômeurs de 4 rue Leva, et en montrant TGV, on compte bien être nombreux.
Très bien. D'autres choses à rajouter?
Juste détailler un tout petit peu plus la grève du 9 novembre de Pôle emploi. Si on regarde leurs revendications, ça rejoint tout ce qu'on a dit dans l'émission, hein, c'est-à-dire que notamment, ils en ont marre d'être obligés de remplir des objectifs chiffrés. Ils aimeraient bien que les conseillers passent de CDD en CDI. Donc en fait, c'est une grève contre les dysfonctionnements qu'on a dénoncés tout à l'heure. Et donc on les soutient.
Voilà, on va arriver en fin d'émission et donc je tenais à vous rappeler peut-être les coordonnées de la Maison des chômeurs et citoyens solidaires, 4 rue Levas, c'est près de la gare. Et donc nous avons déjà peut-être pensé le thème de la prochaine émission, ce serait peut-être une invention de la résistance. Et en prémisse à cette invention de la résistance, on écoute Brigitte.
La grasse matinée, il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Et ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours, 3 nuits sans manger, et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud, l'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Sardines à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her.